You're with SBS Radio.
Les grands titres de ce jeudi, l'écrivain australien d'origine chinoise a été arrêté en Chine, les températures extrêmes en Australie méridionale et des feux de brousse en Tasmanie, le chef de l'opposition au Venezuela s'est proclamé président du pays par intérim hier, l'Open d'Australie avec les demi-finales des dames ce jeudi. Le gouvernement de Canberra est toujours à la recherche d'informations concernant l'arrestation de l'écrivain australien d'origine chinoise, Yang Heng-hyun. Le chef de l'opposition fédérale, Bill Shorten, se dit concerné sur l'ABC.
This is an Australian citizen who's been detained in China. The embassy has just been notified. I'm very supportive of all efforts to reach out to him, to get to the bottom of what happened, what is happening. But it is very concerning. I can't pretend otherwise.
Barnaby Joyce, le député du Parti national, a condamné Aussie Farms, une organisation caritative œuvrant dans le domaine des droits des animaux, pour avoir publié une carte des sites de fermes australiennes. La carte montre les emplacements des fermiers, leurs coordonnées, permet au public d'avoir le plus d'informations possible sur la cruauté potentielle contre les animaux dans le secteur de l'agriculture. Les nationaux, dont le leader et vice-premier ministre Michael McCormack, se sont joints à la Fédération nationale des agriculteurs pour demander que le statut du groupe Aussie Farms soit démantelé. Barnaby Joyce a déclaré sur Sky News qu'il pensait que le site mènerait au harcèlement des fermiers.
How would they like it if we made a website of where activists live and this is their house? No, you know, of course, it incites people who have the motives to create problems to go to those places. That's exactly what it's designed to do.
La présence de feux de brousse extrêmes alors que l'état de l'Australie méridionale se prépare pour une journée de chaleur record ce jeudi. Adélaïde devrait atteindre 45 degrés Celsius, mais le bureau de la météo a déclaré que le record de 46,1 degrés enregistré il y a 80 ans peut être battu. La chaleur s'intensifiera dans les centres régionaux de l'état avec un maximum de 49 degrés prévu à Port Augusta et de 47 degrés à Port Pirie et à Roxy Downs. Les températures élevées et les conditions de vent ne vont pas aider les dizaines d'incendies qui brûlent déjà en Tasmanie. Le bureau de la météo prévoit des températures pouvant atteindre 30 degrés et plus demain, vendredi. Quelques 55 000 hectares de terres sauvages et de brousse à travers l'État ont été ravagés par un incendie depuis la fin du mois de décembre. Au Venezuela, le chef de l'opposition et président du Parlement, Juan Guaido, s'est proclamé mercredi hier chef de l'État par intérim, demandant au président Nicolas Maduro de démissionner de son poste. On écoute Juan Guaido.
Aujourd'hui, 23 janvier 2019, en tant que président de l'Assemblée nationale, invoquant les articles de la Constitution bolivarienne de la République du Venezuela, toute notre action étant basée sur notre Constitution devant Dieu Tout-Puissant, le Venezuela, et avec tout le respect de mes collègues et membres de la table de l'unité, je jure d'assumer formellement les compétences du pouvoir exécutif national en tant que président en charge du Venezuela pour parvenir à l'arrêt de l'usurpation du pouvoir, un gouvernement de transition et des élections libres.
Le Brexit avec la proposition de l'amendement d'une députée travailliste destinée à empêcher une sortie sans accord du Royaume-Uni de l'Union européenne. Explication de Muriel Delcroix pour RFI.
L'amendement déposé par Yvette Cooper donne jusqu'au 26 février à la Première ministre pour faire ratifier un accord de Brexit par la Chambre des communes. Passé ce délai, qui tombe pratiquement un mois avant la sortie programmée du Royaume-Uni le 29 mars, et s'il n'y a toujours pas d'accord, le Parlement voterait alors pour demander à l'Union européenne un report de la mise en œuvre de l'article 50 du traité européen. L'idée serait de repousser la date du Brexit de 9 mois jusqu'au 31 décembre. Il y a plusieurs autres amendements qui cherchent à éviter un no deal, mais le fait que l'amendement Cooper ait reçu un soutien interparti lui donne de bonnes chances de passer. Il est en effet soutenu à la fois par des députés conservateurs, des libéraux démocrates et a aussi reçu l'assentiment ce mercredi de la tête du Parti travailliste. Pour être viable, un amendement doit d'abord être sélectionné par le président de la Chambre des communes et bénéficier ensuite d'un soutien tout parti confondu. Ainsi, on sait déjà que l'amendement déposé par le Labour seul, qui demande un plan comprenant une union douanière permanente avec Bruxelles et un second référendum, n'a aucune chance de passer car il sera rejeté par le camp conservateur par principe.
En France, Emmanuel Macron, le président, a choisi la Drôme pour son troisième déplacement dans le cadre du grand débat national et aussi avec un tête-à-tête avec Laurent Wauquiez, le président du Parti Les Républicains. Valérie Gasse pour RFI explique les enjeux.
Ce sera la première rencontre entre Emmanuel Macron et Laurent Wauquiez depuis l'élection de 2017. Un face-à-face très attendu qui a été organisé à l'initiative de l'Élysée et qui devrait durer une demi-heure. Jusqu'ici, le président de la République et le président du parti Les Républicains n'ont eu que des échanges par médias interposés qui n'ont pas toujours été marqués par une grande amabilité. Les deux hommes vont donc cette fois-ci se jauger les yeux dans les yeux avant de rejoindre les élus de la région invités à débattre pendant environ 2 heures avec le président de la République lors d'un déjeuner à la préfecture de Valence. Une 60aine de représentants des associations de maires de la région Auvergne-Rhône-Alpes seront présents. Rien à voir donc avec les réunions marathon organisées dans l'Eure et dans le Lot devant plusieurs centaines de maires la semaine dernière. Emmanuel Macron change de format. Cette rencontre ne sera d'ailleurs pas retransmise à la télévision. À l'Élysée, on évoque une volonté de s'adapter aux demandes des élus et de ne pas se répéter. En revanche, comme lors des précédents déplacements, Emmanuel Macron ira voir ensuite des Français, cette fois-ci dans un centre pour personnes âgées.
En Afrique francophone, la RDC se prépare à investir son nouveau président, Félix Tshisekedi. Plusieurs dirigeants des pays africains ne seront pas présents. Reportage de Florence Meurice pour RFI.
C'est le protocole du président sortant qui a géré les invitations et selon plusieurs sources, le nouvel élu Félix Tshisekedi n'a pas vraiment eu son mot à dire. Sur les 17 chefs d'État invités, selon le ministère congolais des Affaires étrangères, tous sont des Africains, Tanzanie, Centrafrique, Angola, Burundi et Soudan du Sud pour les pays voisins, l'Égypte aussi qui prend bientôt la tête de l'Union africaine, plusieurs pays d'Afrique australe, Kenya, Namibie, Zimbabwe, Malawi et Afrique du Sud, auxquels s'ajoutent l'Éthiopie, le Soudan, le Sierra à Léon, Haïti, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Nous avons opté pour une cérémonie sobre, explique le conseiller diplomatique de Joseph Kabila, qui tient à préciser que ces pays invités ont eux-mêmes demandé à venir et assure qu'un tri a été opéré. La Zambie, par exemple, n'a pas été invitée, explique une source au protocole d'État. Le communiqué du président Lungu demandant un recomptage des voix de la présidentielle n'a visiblement pas été apprécié. Autre absence notable sur la liste des invités, l'Ouganda et surtout le Rwanda, dont le président Paul Kagame a initié l'appel de l'Union africaine qui évoquait des doutes sérieux sur les résultats de l'élection. Autre voisin, le Congo-Brazzaville, fait savoir qu'il devrait être représenté par son ministre des Affaires étrangères.
En Thaïlande, des élections législatives auront lieu le 24 mars prochain, les premières depuis le coup d'État de 2014. Analyse d'Eugénie Mériot, chercheuse du CNRS et spécialiste de l'Asie orientale. Elle est sur RFI.
L'utilité de ces élections, c'est pour Prayut d'être légitimé par le suffrage universel. L'objectif est de rester Premier ministre, mais d'être Premier ministre dans le cadre d'une élection. International, il y a toute une série d'accords qui ont été gelés après le coup d'État. Il y a notamment un accord de libre-échange avec l'Union européenne, des accords militaires qui donc ont été gelés, qui pourront repartir. Ils ont, depuis le départ, fait accepter leur coup d'État en disant que c'était pour organiser des élections dans un contexte d'unité nationale. Il y avait les manifestations chemise rouge, chemise jaune, un conflit qui, selon l'armée, aurait pu dégénérer en guerre civile. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. Et ensuite, bien sûr, l'objectif, c'était de créer les conditions favorables à une démocratie durable. Et donc, dès qu'ils ont pris le pouvoir, peut-être le jour même ou le lendemain, ils ont annoncé des élections. Voilà, ensuite, elles ont été repoussées, repoussées, repoussées. Mais c'est comme ça que l'armée a pu se maintenir.
La Russie assure que le missile contesté par les États-Unis, qui interdit l'usage de missiles d'une portée de 500 à 5500 km, respecte bien les termes de ce traité nucléaire, le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Explication de Daniel Valo pour RFI.
C'est en présence de journalistes et d'attachés militaires que l'armée russe a pour la première fois dévoilé le missile controversé. Sous l'œil des caméras et dans un hangar du parc Patriote, ce parc d'attractions militaires situé dans la région de Moscou. Pour les autorités russes, le système balistique 9M729 est bien conforme au traité INF qui avait mis fin dans les années 80 à la crise des euromissiles. La preuve, assure l'état-major de l'armée russe, son rayon d'action est de 480 km, juste en dessous donc de la limite de 500 km imposée par le traité signé à l'époque par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Pas sûr cependant que ces images et ces déclarations suffisent à convaincre les États-Unis qui menacent toujours de se retirer du traité si la Russie ne détruit pas le système balistique incriminé. Washington accuse en effet la Russie d'avoir doté ce missile d'une arme nucléaire dont la portée serait, elle, largement supérieure à la limite des 500 km.
Quelques mots de sport. L'Australie a une toute nouvelle équipe pour le premier test match de cricket contre le Sri Lanka à Brisbane qui commence ce jeudi. Curtis Patterson et Jai Richardson font leur début également. Et puis le tennis à l'Open d'Australie. La légende du tennis Rod Laver estime que Novak Djokovic est sur la bonne voie pour gagner la finale de dimanche prochain.
I think he's mentally... He says, I'm stronger than all of you guys, and that's how I'm going to beat you. And I think he doesn't go into a secondary game. So I think Novak has got every opportunity to win.
Coup d'œil météo pour ce jeudi en Australie. Perth maximale de 22 degrés. Adélaïde, 45 degrés. Melbourne, 37 degrés. Hobart, 27. Canberra, 32. Sydney, 27. Brisbane, 34. Cairns, 31. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximale de 42 degrés. Un rappel des grands titres de ce jeudi, l'écrivain australien d'origine chinoise Yang Heng Chang a été arrêté en Chine, les températures extrêmes en Australie méridionale et des feux de brousse en Tasmanie, le chef de l'opposition au Venezuela s'est proclamé président du pays par intérim hier et à l'Open d'Australie avec les demi-finales des dames ce jeudi. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.